diffusion de nos programmes va maintenant se poursuivre en français.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Prague. Bienvenue dans notre émission du samedi, une émission proposée aujourd'hui par Anna Kubiszta. Elle sera consacrée à la culture, la linguistique et la littérature. Et on commence tout de suite avec du cinéma. Culture sans frontières accueille aujourd'hui la réalisatrice et scénariste Anne Vilasek, diplômée de l'École supérieure normale supérieure de Paris et puis également de la FEMIS. Anne Vilasek a tourné plusieurs documentaires pour Arte avant de passer avec le long métrage Petite Chérie en 2000 à la fiction. Attirée par des thèmes de société comme l'adolescence, la vie sentimentale et familiale, par, comme elle le dit elle-même, la banalité du quotidien qui est une chose extraordinaire, Anne Vilasek est récemment venue à Prague pour présenter au public du Festival du film français son nouveau téléfilm « E-Love ». Son héroïne Paul Zachman, professeur de philosophie quinquagénaire, décide, suite à l'échec de son mariage, de s'inscrire sur un site de rencontre sur Internet. Au micro de Magdalena Rosinkova, Anne Vilasek nous parle de son film, mais aussi de ses toutes premières découvertes de l'Europe de l'Est à l'époque de son enfance.
Culture sans frontières.
Anne Vilasek, bonjour.
Bonjour.
Votre film E-Love raconte ce que peut vivre une femme intelligente, ravissante, une femme de 50 ans, qui au début de l'histoire n'est pas trop sûre d'elle, je trouve, et qui essaye de trouver un compagnon à travers un site de rencontre. Ce qui est sympathique, je trouve, sur ce personnage, c'est qu'elle a un sens de l'autodérision. Elle ne se fait pas d'illusions ni sur elle-même ni sur les hommes, et pourtant elle se lance dans cette aventure. Alors comment avez-vous conçu ce personnage? Cherche-t-elle vraiment un compagnon? C'est plutôt un voyage, disons, à la découverte des hommes?
Oui, c'est ça, c'est un voyage à la découverte des hommes et de la vie, et surtout ce que j'ai découvert en écrivant le film, parce que je suis partie sur cette histoire sans rien connaître des sites internet, évidemment, donc pour moi c'était une fiction totale.
Et c'était une découverte aussi.
C'était une découverte aussi, et je me suis beaucoup amusée parce que j'entendais des amis me parler de leur rencontre sur Mythique, et ça me paraissait extraordinaire. Je trouvais d'abord qu'il fallait un courage incroyable pour affronter comme ça des rencontres d'hommes qu'elle ne connaissait pas. Bon, là, parfois il y a beaucoup de préalables sur Internet, mais parfois c'est très rapide, hein, donc les rencontres. Donc je trouvais ça incroyablement courageux. Et finalement, je trouve que cette histoire, c'est l'histoire d'une femme qui se découvre elle-même, qui croit chercher un compagnon, et en fin de compte, c'est elle qu'elle découvre. Mm-hmm. Et c'est ça qui m'a paru beau.
Mm-hmm. Et qu'est-ce qu'elle découvre alors?
Elle découvre une femme nouvelle, plus libre. Je pense qu'elle est plus libre à la fin qu'au début. Que tous les coups qu'elle se prend, finalement, c'est pas des coups pour rien, parce que c'est des coups où elle découvre jusqu'où elle peut aller. Qu'est-ce qu'elle cherche vraiment? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est autre chose? Voilà, donc... Et je trouve qu'à la fin, elle est plus forte et elle a plus de flamme et c'est une femme différente.
Donc vous vous êtes inspiré, disons, de l'expérience, de l'expérience de vos amis qui ont...
C'est tiré d'une sorte de journal, un journal intime, autobiographique, d'une femme qui a été mon professeur de philosophie à 25 ans, quand j'étais étudiante de philosophie. Et c'était un journal très noir, très sombre, mais qui était très intéressant, très riche. Moi, qui m'a fait réfléchir à pourquoi une femme de cette intelligence, de ce milieu, etc., tout d'un coup pouvait plonger comme ça dans l'ivresse des rencontres, l'ivresse des possibles. Et je me suis dit pourquoi pas, et je me suis projetée dans cette histoire. Et finalement, je pense que c'est moi que j'ai projeté. Enfin, j'ai essayé de m'imaginer dans chacune des rencontres pour voir comment j'allais pouvoir réagir. Et donc Anne Consigny m'a aidée parce qu'on a eu une sorte de proximité. Enfin, on s'est bien compris, je crois, sur le personnage.
Et avec Anne Consigny, c'était un choix évident?
Mais c'est un choix préalable, c'est-à-dire j'ai choisi l'actrice avant d'écrire le scénario. C'est difficile d'écrire un scénario, de mettre tout dedans et à la fin de se trouver aux mains d'une actrice qui ne veut pas faire exactement ce qu'on a voulu. Donc j'ai préféré me dire, je vais rencontrer une actrice, je vais lui raconter l'histoire et si elle est partante, si elle me fait confiance, je vais écrire pour elle en pensant à elle. Et comme Anne avait l'air très partante, j'ai tout le temps pensé à elle, à sa petite silhouette toute fragile de petit oiseau, à son côté très frémissant. Et dans chacune des scènes, ça m'a beaucoup inspirée, ce qu'elle est physiquement et sa grâce particulière. Voilà.
Et les hommes qu'elle rencontre, il me paraît qu'ils sortent en fait du film aussi désespérés, aussi désabusés que les femmes qu'ils souhaitent rencontrer, bien qu'il y a ce côté... très critique aussi ou humoristique. Comment avez-vous travaillé les personnages masculins?
Alors sur les personnages masculins qu'elle rencontre, enfin pas le mari, qui est le mari qui est un peu une invention, mais le personnage masculin qu'elle rencontre, c'était déjà, il y avait déjà des éléments dans le journal intime. On a pioché dans les expériences de la femme qui avait écrit le journal, et notamment on s'est beaucoup amusé sur les pseudonymes, sur les choses comme ça. Et après, on a poussé les scènes parce que on s'est dit qu'il fallait toujours surprendre. Il fallait montrer comment même la rencontre la plus banale, la plus cliché, pouvait déboucher sur des grosses surprises. Et donc, on a cherché à surprendre le spectateur, à nous surprendre nous aussi, à surprendre le personnage, à créer des situations inattendues chaque fois différentes, à créer des écarts aussi sociaux, psychologiques, voilà. Et on s'est beaucoup amusé à faire ça.
Et pensez-vous, au fond, que c'est une chose bien, cette possibilité de pouvoir rencontrer des gens sur Internet?
J'ai essayé de ne pas juger. C'est-à-dire que moi, au départ, je trouve ça horrible. Au départ, je trouve ça abominable. C'est-à-dire l'idée que... on cherche quelqu'un sur Internet en cochant des qualités, comme si on allait au supermarché, comme si on faisait ses courses. Et c'est moralement abominable.
On peut voir des vidéos, on peut rentrer quasiment dans l'appartement.
Voilà, ça on l'a imaginé. On s'est beaucoup amusé à imaginer ça. Au départ, ça n'existait pas, mais c'est un des passages où on s'est beaucoup amusé à se dire pourquoi pas inventer un site où les hommes se présenteraient leur petit intérieur. Ça serait trop drôle. Voilà. Mais pour moi, c'est une idée abominable. Et en même temps, je me suis interdite de juger ça. C'est-à-dire, je me dis, pourquoi ça sera abominable? S'il y a des tas de gens qui font ça, c'est que quelque part, c'est bien. C'est que quelque part, ça apporte quelque chose. C'est pas si abominable que ça. Ça fait partie de la vie. Donc, on ne va pas se mettre à juger moralement ça en disant, non, c'est pas possible. Il faut juste voir qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que ça peut apporter. Et effectivement, quand même, on s'est dit que... on pouvait comprendre les gens qui, tout d'un coup, ça ouvrait des possibles dans des vies où, finalement, on rencontre pas grand monde, on est là, tous, dans notre petit boulot, et on rencontre que des gens qui nous ressemblent, et que j'ai imaginé un personnage qui avait envie de rencontrer des gens qui lui ressemblaient pas du tout, et qui étaient complètement différents, qui étaient curieux. C'est Paul, elle est très curieuse et ça, c'est une de ses qualités aussi. C'est qu'elle y va, elle va rencontrer des types en se disant, bah tiens, si j'essayais, si je regardais ce que ça donnait, peut-être que ça va marcher. Bon, ça marche pas, parce que ça marche pas si facilement que ça, mais au moins, elle y va, et je trouve ça formidable.
Pourquoi, d'après vous, ce sujet qui est donc ce phénomène qui est courant dans notre vie quotidienne, est si peu exploré au cinéma?
Parce que je pense que les gens trouvent ça trop banal, en fait. Internet est tellement rentré dans les mœurs que c'est pas intéressant. D'ailleurs, c'est pas intéressant de filmer Internet. C'est pas Internet que j'ai filmé, c'est des rencontres. Donc Internet n'est qu'un prétexte pour filmer beaucoup de rencontres amoureuses. Ce qui est incroyable, c'est que ça permet de rencontrer plein de gens au lieu d'en rencontrer un ou deux. Donc tout d'un coup, c'est formidable. Tout d'un coup, c'est un film avec une femme qui n'est pas avec deux ou trois hommes, mais avec cinq, six, sept, peut-être plus. Donc, tout d'un coup, c'est très bizarre. Et je me suis dit, non, il faut... J'aime bien partir de choses très banales et très... que les gens voient comme quelque chose de pas intéressant et de me dire, si, ça justement, ça va être très, très intéressant et on va en tirer quelque chose de... tout d'un coup, une vraie aventure.
Vous pouvez donner d'autres exemples
de banalité
de banalité qui vous a inspiré dans votre...
En ce moment, j'ai fini un scénario sur la vie de deux couples qui sont voisins. Et c'est un scénario apparemment qui ne traite que de la vie quotidienne, des repas qu'on fait, de choses extrêmement triviales de la vie quotidienne. Mais au fond, je pense que ça parle des drames de l'existence. Et donc, c'est une manière de ne pas vouloir attraper le spectateur sur l'extraordinaire pour dire oh, « ça va être fantastique ». Non, non, ça va vous concerner. Je pense qu'il faut parler aux gens de ce qui les concerne. Et c'est pour ça que, bizarrement, mon film, qui est un tout petit film de télévision, je trouve qu'il touche beaucoup les publics à l'étranger et il est parfaitement compris par les publics étrangers. Il n'y a aucun problème.
Et c'est pour la première fois que vous êtes venu en République tchèque ?
Non, j'étais venue il y a très longtemps avec mes parents, parce que mes parents, quand j'étais petite, dans les années 70, ils m'emmenaient toujours en voyage dans les pays de l'Est. Donc on a fait du camping partout dans les pays de l'Est, et notamment en Tchécoslovaquie, donc à l'époque, qui n'est plus la Tchécoslovaquie. Mais donc je connaissais un peu la Tchécoslovaquie comme ça, et puis après je suis revenue. Plus tard, au début des années 90. Et puis, je suis allée aussi au festival de Carlo Vivari avec mon premier film. Donc, voilà, j'ai eu à plusieurs époques, j'ai fait des petits séjours en Tchéquie, en Tchécoslovaquie, et voilà.
Et vous avez gardé des souvenirs de ce premier voyage ?
Bien sûr. Moi, j'avais un père qui était professeur d'histoire et dont les parents étaient communistes. Et mon père a toujours été, lui, de gauche, mais profondément anticommuniste. Et il voulait aller voir les pays communistes pour montrer à son père que c'était pas bien. Et donc, on partait en voyage pour voir ce qui se passait. Et lui, il revenait, il avait des grandes discussions avec son père pour montrer que ce n'était pas bien, que ça n'allait pas. Mais en même temps, il y avait une telle chaleur dans les pays qu'on traversait, les rencontres étaient tellement formidables que il y avait aussi des choses formidables qui se passaient. C'était pas négatif et moi je garde un très bon souvenir de ces voyages. Et mon père avait aussi, on habitait à Nîmes et le lycée de Nîmes était jumelé avec Prague. Enfin, c'est une ville qui est jumelée avec Prague et donc mon père avait beaucoup d'étudiants pragois qui venaient à Nîmes, et donc on voyait.
Il y avait une section tchèque
au lycée d'Odé de Nîmes, qui était mon lycée aussi. Mm-hmm. Donc après.
Mais avez-vous un souvenir particulièrement marquant d'un de ces voyages dans les pays communistes ?
Et j'ai un grand souvenir de la Roumanie. Et je pense d'ailleurs que c'était la même année où on est allé en Tchécoslovaquie et on campait. Parce qu'on pouvait camper à l'époque. Là, il n'y avait qu'en Union soviétique qu'on ne pouvait pas camper. Donc en Union soviétique, on avait fait des voyages organisés. Avec d'autres communistes, c'était des voyages où on allait voir des usines modèles, des kolkhozes, etc. Mais par contre, à Bucarest, il m'est arrivé que j'ai eu une méningite. J'étais petite, je devais avoir 7-8 ans à l'époque. Et j'ai eu une méningite, c'était très grave. Donc j'étais hospitalisée une quinzaine de jours à l'hôpital de Bucarest, qui était un hôpital où on manquait de tout. Il n'y avait rien, il n'y avait rien à manger, c'était horrible. Et en fait, les infirmiers, les médecins, ils ont été tellement formidables avec moi. Tout ce qu'ils pouvaient me trouver à manger, ils me l'amenaient. Ils parlaient tous le français, c'était extraordinaire. Et comme j'étais une petite fille, ils m'ont trouvé des piles et des piles de Pif Gadget, qui était le journal pour enfants communistes de l'époque, l'organe du Parti communiste français, et que je n'avais pas le droit de lire à la maison parce que c'était trop débile. Mais en fait, là, je me suis abreuvée pendant 15 jours de Pif Gadget et c'était formidable. J'étais hyper contente, en fait. Et puis voilà, malgré les mauvais souvenirs médicaux, je suis sortie de là. C'était une sacrée expérience de rester dans cet hôpital.
On continue tout de suite avec la suite du programme et tout de suite votre rubrique préférée, celle consacrée au charme et aux difficultés de la langue tchèque. Guillaume Narguet.
Le tchèque du bout de la langue.
Salut à tous les tchécophiles de Radio Prague.
Ahoj vám všem milovníkům češtiny Radia Praha.
Sans aucun doute, que ce soit sur Radio Prague, dans les médias tchèques et internationaux, tout ou presque a été dit sur Václav Havel, sa vie et son œuvre, dans la semaine qui a suivi sa mort le 18 décembre dernier. Depuis, après s'être pratiquement arrêté l'espace de quelques jours, du moins en République tchèque, la vie, faite de fin d'année aidant, a repris son cours. Pour nous, l'événement de son décès, aussi triste soit-il, n'en reste pas moins l'occasion de revenir sur les mots et petites phrases prononcées par Václav Havel depuis l'éclatement de la Révolution fin 1989, et révolution qui a entraîné la chute du régime communiste et l'arrivée à la tête de l'État tchécoslovaque puis tchèque de l'ancien dissident. Autant de mots et de phrases qui resteront gravés dans l'histoire.
Čtyřicet let jste v tento den slyšeli z úst mých předchůdců v různých obměnách totéž. Jak naše země vzkvétá, jak jsme všichni šťastní. Předpokládám, že jste mne nenavrhli do tohoto úřadu proto, abych vám i já lhal. Naše země nevzkvétá.
Chers concitoyens, pendant 40 ans, en ce jour, vous avez entendu de la bouche de mes prédécesseurs la même chose formulée de diverses manières. Que notre pays prospère, combien de nouveaux millions de tonnes d'acier nous avons produit et que nous sommes tous heureux. Je suppose que vous n'avez pas voulu me voir occuper cette fonction pour m'entendre moi aussi vous mentir. Notre pays ne prospère pas. Ces mots que vous venez d'entendre ou lire sont ceux qui ont été prononcés par Václav Havel devant les caméras de télévision le 1er janvier 1990, soit quelques jours seulement après sa nomination à la présidence de la République en ouverture de son premier discours du Nouvel An. Le président philosophe en prononça de nombreux autres par la suite jusqu'en 2003, mais son premier très tranchant reste le plus célèbre d'entre tous. Dans celui-ci, Václav Havel parle donc, malgré l'euphorie générale alors ambiante dans la société tchécoslovaque et plus largement dans toute l'Europe, d'un pays qui ne prospère pas.
Naše země nevzkvétá.
Contrairement donc à ce qu'avaient affirmé pendant quatre décennies ses prédécesseurs communistes au château de Prague. Une façon pour lui de faire ouvrir les yeux aux Tchèques et Slovaques, nombreux à vivre dans l'illusion qu'un avenir radieux les attendait. Malgré la liberté retrouvée, Václav Havel voulait leur faire comprendre que c'était désormais travail et abnégation qui les attendaient en premier lieu. Dramaturge et écrivain, Václav Havel avait la faculté, le don de savoir employer les mots comme peu d'autres hommes politiques de son époque. Mais plus que le sens de la formule, l'ancien dissident qu'il était avait pris conscience de la force des mots sous le totalitarisme lorsque l'emploi de ceux-ci était l'un des rares moyens de lutter contre le régime. Tout cela explique pourquoi certaines phrases de Václav Havel sont entrées dans l'histoire en s'imprimant pour toujours dans la mémoire des gens. La formule la plus forte a sans nul doute été celle qui est devenue le symbole de la révolution de velours.
Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí.
Soit la vérité et l'amour doivent triompher de la haine et du mensonge. L'idée d'Havel était alors d'agir sans violence et sans rancune personnelle pour installer la démocratie en affirmant
« Nejsme jako oni.
Nous ne sommes pas comme eux, sous-entendu les communistes. » Et si aujourd'hui cette phrase fait plus rire qu'autre chose un certain nombre de Tchèques et de politiques, elle n'en a pas moins été le slogan de l'important mouvement pacifiste de révolte en 1989, le slogan d'une révolution souvent citée en exemple aujourd'hui encore dans de nombreux pays du monde. Autre formule restée très célèbre, la
blbá nálada,
évoquée pour la première fois par le président en septembre 1997. Václav Havel avait alors voulu décrire l'atmosphère suffocante et négative qui régnait alors dans la société tchèque. Littéralement, humeur bête,
blbá nálada,
désigne en fait une certaine forme de morosité, de manque ou de perte d'espoir, un manque d'enthousiasme ou plus simplement une mauvaise humeur générale. À l'époque, les premiers scandales liés à la transformation économique du pays, aux immenses privatisations, éclataient au grand jour et les gens de la rue avaient déjà perdu une grande partie de leurs illusions du début des folles années 1990. Trois ans plus tard, en 2000 cette fois, Václav Havel, qui visait indirectement celui qui allait lui succéder à la présidence de la République, l'autre Václav, Klaus, premier ministre pendant justement les sulfureuses années de transformation économique, parla encore de capitalisme mafieux.
Mafiansky kapitalismus.
Plus que jamais, la guéguerre idéologique avec Václav Klaus battait alors son plein et cette guerre des mots et des petites phrases dura plus de 20 ans, ne s'achevant finalement qu'avec la mort de Václav Havel. Mais nous reviendrons sur tout cela dans la prochaine émission dans 15 jours. D'ici là, portez-vous du mieux possible.
Mějte se co nejlíp.
Portez le soleil en vous.
Slunce v duši.
Salut et à bientôt.
Zatím ahoj.
Et place maintenant à la littérature, ou plus précisément à un genre qui récemment encore n'était pas considéré comme vraiment littéraire, mais plutôt comme un phénomène marginal. Il s'agit de la bande dessinée, et Václav Richter vous présentera le livre indispensable pour tout amateur de la bande dessinée tchèque.
Rencontre littéraire. Bien que la bande dessinée n'occupe pas dans le milieu culturel tchèque une place aussi importante que par exemple en Belgique ou aux États-Unis, elle n'en est pas moins un phénomène culturel important. Tombée en disgrâce sous le régime communiste, elle a été obligée de chercher de nouveau sa place au soleil et son public après la révolution du velours en 1989. Aujourd'hui, nous oublions un peu que la bande dessinée tchèque est un phénomène qui, au moment où son évolution a été coupée par le régime arbitraire, avait déjà son histoire. Ceux qui aimeraient connaître l'histoire de la bande dessinée tchèque ont maintenant à leur disposition un livre qui mérite d'être qualifié de fondamental. Son auteur, Helena Dissing, l'a intitulé « La bande dessinée tchèque de la première moitié du XXe siècle ». L'auteur cherche par son texte et par d'innombrables illustrations à cerner le phénomène depuis ses origines et constate qu'il est très difficile de dire à partir de quel moment on peut parler de la bande dessinée tchèque.
La bande dessinée s'est développée à partir d'un mélange de dessins, de revues illustrées, d'anecdotes racontées en plusieurs images, de feuilles lithographiques qui paraissaient en série sous la forme de feuilletons. Nous ne pouvons donc pas déterminer la date de naissance de la bande dessinée tchèque. Nous pouvons dire en général que la BD tchèque, telle que nous la connaissons aujourd'hui avec les dessins dans les cases et les textes placés dans les bulles, n'a vu le jour qu'au début du XXe siècle.
Dans son livre, Helena Dissing évoque d'abord les racines de la bande dessinée et les gens qui l'a précédée dans le journal et la revue, comme la caricature journalistique. Elle se penche aussi sur les influences étrangères et sur les traits typiques pour la BD tchèque.
Les dessinateurs tchèques ont été très liés avec les milieux autrichiens et allemands. Ils prenaient pourtant pour modèle les périodiques humoristes français de l'époque. Les dessinateurs connaissaient cette production. Des peintres comme Mikuláš Aleš ou Bedřich Havránek, considérés comme artistes nationaux, gagnaient leur vie par des dessins publiés dans les journaux et des revues. Ils connaissaient très bien ce genre de production et les influences étrangères dans l'illustration journalistique sont donc bien visibles et évidentes. C'est ce que je laisse d'ailleurs entendre dans l'introduction de mon livre.
Parmi les noms de nombreux auteurs du genre figure aussi celui du dessinateur et peintre Josef Lada, qui a vécu entre 1887 et 1957. Cet artiste encore extrêmement populaire en Tchéquie un demi-siècle après sa mort s'est fait connaître également à l'étranger grâce à ses illustrations pour le roman Les aventures du brave soldat Schweik de Jaroslav Hašek. Helena Dissing rappelle que Lada était aussi un important auteur de bande dessinée.
Lada est entré sur la scène du dessin journalistique, du dessin satirique et de la caricature dans les années 1910. C'était un autodidacte. À l'époque où l'illustration était marquée par la ligne courbe dans le style Art Nouveau et les dessins se ressemblent beaucoup, Lada est parvenu rapidement à un style personnel basant sur sa ligne robuste et sur une vision à deux dimensions, si j'ose le dire de cette façon simplifiée. C'est lui qui a imposé dans la revue Kopchevi les orties, la nouvelle forme de dessin avec des bulles. Il a été le premier à raconter des histoires de cette façon.
Helena Dissing de souligner que, pour Josef Vlada, le dessin journalistique n'était pas qu'un gagne-pain, mais une véritable passion. Ses tableaux à l'huile et ses lithographies aujourd'hui si appréciées étaient plutôt marginales dans sa création. Il adorait dessiner, vivait pour le dessin, et était capable d'adapter son style rapidement aux besoins de tous les périodiques dans lesquels paraissaient ses illustrations. Cette disponibilité n'a pourtant pas nui à la qualité de son travail, car il avait une véritable vocation d'illustrateur. Le livre d'Helena Dissing n'oublie pas non plus Ondřej Sekora, un autre auteur important de la bande dessinée tchèque, celui qui a créé Ferda Mravenec, Ferda la fourmi, un héros adoré des enfants tchèques. Les aventures de cet insecte astucié ont permis à Ondřej Sekora de déployer ses talents de dessinateur et de narrateur. Bien que l'auteur ait été inspiré par certains personnages de la production des studios Walt Disney, il a su donner à son minuscule héros de traits typiques qui le distinguaient des autres personnages de son genre et ont assuré sa popularité et sa longévité. Les livres sur Ferda la fourmi sortent encore aujourd'hui et ce petit héros courageux, intelligent et débrouillard rivalise par sa popularité avec les personnages créés beaucoup plus tard, dont par exemple la petite taupe du dessinateur et réalisateur Zdeněk Miller. Dans la galerie des personnages de la bande dessinée tchèque qui était particulièrement appréciée du public, il ne faut pas non plus oublier Pepina Reholcová, femme qui peut être caractérisée comme l'incarnation de la médiocrité féminine. Elle n'en était pas moins recherchée par le lecteur et la lectrice tchèque. Helena Dissing présente ce personnage bizarre qui est devenu aussi héroïne d'un film musical.
Pepina Reiholcová byla vlastně kreslená postava kreslíře Voborského.
Pepina Reiholcová est un personnage créé dans les années 1920 par le dessinateur František Voborský. Si nous voulons la classer dans une catégorie humoristique, nous devons dire que ce n'était pas de l'humour très intelligent ou intellectuel, parce que c'est un personnage conçu pour le grand public et l'humour des bandes dessinées avec Pepina Reiholcová était un peu licencieux.
Postava s tím košilatým stylem humoru.
Dans les années 1940, le public tchèque adorait un autre héros de bande dessinée. Il s'appelait Perák, l'homme à ressort, parce qu'il savait se déplacer très rapidement grâce au ressort d'un canapé fixé à ses chaussures. Helena Dissing rappelle que ce Superman tchèque tire son origine d'un personnage semblable de l'Angleterre victorienne, mais que ses aventures ont été actualisées et adaptées pour le milieu tchèque. Perák, qui saute sans problème de toit en toit, réussit à semer la terreur parmi les nazis.
Ce personnage s'est imposé dans la bande dessinée tchèque et juste avant la libération, il faisait partie des légendes et de la tradition orale. Il est devenu personnage de bande dessinée, mais aussi d'un film d'animation de Jiří Trnka. C'est un héros qui nuit aux nazis allemands et cherche à profiter à son peuple. C'est un héros engagé.
Après la Deuxième Guerre mondiale, Perák est progressivement tombé dans l'oubli. Il n'a été ressuscité qu'après la chute du communisme et aujourd'hui encore il réapparaît dans la création de certains dessinateurs. Pepina Reiholcová et Perák ne sont cependant que deux exemples de la riche production des auteurs de la bande dessinée tchèque de la première moitié du XXe siècle. Cette production n'était possible que grâce à l'intérêt du public qui était de plus en plus friand des histoires racontées par des images. Helena Dissing constate que les auteurs de la BD tchèque créée, à quelques exceptions près, dont Pepina Reiholcová, pour un public toute catégorie.
Nous pouvons dire en général de la bande dessinée de ce temps-là qu'elle n'était pas destinée à un public spécifique. Elle était conçue pour un public universel, enfants et adultes. Il n'y avait pas d'allusion sexuelle qui la suturait dans une catégorie réservée uniquement aux adultes.
Il serait sans doute intéressant de rééditer aujourd'hui quelques-uns de ces cycles de vieilles bandes dessinées. Les lecteurs s'amuseraient bien et les auteurs contemporains pourraient y trouver de l'inspiration.
Voilà, c'est la fin de cette émission du samedi. Retrouvez dès demain votre rendez-vous dominical en musique. Tous ces sujets, vous le savez, vous pouvez les retrouver sous forme d'articles, sous forme de podcasts, mais également en streaming sur notre site internet, le www.radio.cz/fr. Merci de votre fidélité. Bon vent. Ahoy.
Radio Praga.